Et je voulais tout d'abord remercier Anne Benichou pour le travail extraordinaire qu'elle a pu faire avec l'œuvre Between the Frames et sa traduction ou son transport en format livre. On parlera de ça tout à l'heure. Aussi de sa présence ici, évidemment. Merci d'être venu. Anne Benichou enseigne histoire de l'art à l'Université du Québec à Montréal. Elle est spécialiste autour des questions des archives et de la documentation de l'art contemporain, un thème qui est évidemment central aussi au statut de la présentation de Between the Frames au MACBA. Je voulais expliquer tout d'abord ou donner quelques pistes sur pourquoi cette œuvre est importante pour le musée, pourquoi on a poursuivi son acquisition, pourquoi on la présente, comment on la présente. Et il est tout d'abord question de parler de l'importance de cette œuvre dans la production intégrale de Muntadas, à qui je remercie aussi de sa présence ici avec nous. Between the Frames est un exemple d'une œuvre qui part au début de l'information comme matière première de ce travail, mais aussi s'érige sur comme un portrait critique de ce qui était le système de l'art dans les années 80. Il est pour moi aussi question que dans la collection du MACBA dans les années 60 et 70 joue un noyau très important de cette collection. Il est très important que cette collection s'approche aussi du présent et que nous puissions commencer dès à présent à historiser, si ce mot existe en français, on peut l'utiliser, les années 80 et son rapport critique avec le présent. Cette œuvre est essentielle pour initier ce projet d'historisation puisqu'elle nous amène voir comment se sont organisés ces différents acteurs, ces différents groupes d'acteurs à ce moment-là, et nous permet aussi de voir comment il est différent aussi, qu'est-ce qui reste inchangé et les choses qui, évidemment, les rapports, les acteurs qui sont très différents aujourd'hui. Il est important aussi de mentionner que l'intérêt pour Between the Frames commence pour nous lorsque, avec Muntadas, on a commencé à parler de la digitalisation des archives. Ça, c'est très important et je pense qu'on doit parler aussi un peu ce soir de ce rapport des archives qu'on présente au centre de documentation par rapport à la pièce, à l'œuvre conçue par l'artiste. Et à partir de cette proximité avec l'œuvre que les archives ou le projet de digitalisation des archives qui reste consultable au centre de documentation au-delà de la présentation de la pièce, nous a fait penser à l'opportunité aussi de l'acquisition de la présentation en ce moment. Il est important aussi de parler de la présentation de Between the Frames qu'avec Muntadas on avait pu faire à Vite de Vite il y a presque 10 ans. C'était une présentation dont la configuration est reprise aussi dans les archives ou dans la documentation qui accompagne l'œuvre. Et donc, cette familiarité nous a permis aussi de faire cette acquisition avec plus de facilité. Je me souviens que lors de mon premier voyage à New York, ça devrait être 1990, où je rendais visite à Muntadas, il était en train d'enregistrer les entretiens avec des gens comme Dan Graham et probablement Hans Hacke. J'imagine que tu étais en train de faire le épilogue.
Quelle année?
90. Si je me trompe pas, donc c'est voilà une donnée aussi un peu biographique. Je pense que Between the Frames est un exemple de la complexité de la patrimonialisation de l'art contemporain avec laquelle on se trouve aujourd'hui Je pense non seulement le MACBA, mais tout musée d'art contemporain. Et je demanderai aussi plus tard à Anne Benichou de nous parler de son point de vue par rapport précisément à la tension qui s'établit entre œuvres d'art, documents, archives. Et je pense que cette œuvre nous donne des pistes ou des exemples de quelle est la complexité de ces problèmes-là. Comment peut-on parler d'art contemporain avec des matériaux qui vont au-delà des œuvres à proprement parler. Je voudrais que ce soir on discute, on parle, on aussi après on réponde vos questions, vos commentaires. Mais je voudrais tout d'abord demander à Muntadas peut-être de nous parler des origines de Between the Frames et des premières idées jusqu'à la première installation de cette pièce qui a une histoire elle-même aussi très importante par rapport à cette présentation.
Bien, considérant que c'est les livres les protagonistes de ce soir, je crois que le livre est là, ce qui a produit un Benichou. Mais je voudrais remercier les gens de MACBA qui ont travaillé sur publication, Clara Plasencia, Lorena, Claudia, et la designer du livre de Nieves. Parce que je crois que c'est important que si on parle de livre, qu'on connaît que c'était un projet aussi des collaborations de gens ici. Et oui, l'origine, je crois qu'on doit dire qu'il y a toujours sur un projet des raisons personnelles et des raisons publiques. Je dirais que je commence pour le public. Je crois que en les années 80, il y avait ce qu'il existe encore maintenant, une production de l'art, que c'est l'art, les artistes, ce qui est produit, et après les systèmes de l'art, que c'est tous les gens qui sont entre l'art, l'artiste et l'audience. Et ce système, il n'était pas inventé les années 80. Mais c'est clair que les années 80, ils ont pris un grand protagonisme. Et ce protagonisme, il arrivait jusqu'à le moment d'exercice de pouvoir, exercice de son rôle, plus en plus à la situation qu'il doit. Moi, je trouve toujours que c'est une raison d'avoir une galerie, d'avoir des musées, d'avoir des critiques, tout ça, ce sont des rôles qui existent, un rôle nécessaire. Mais quand ce rôle prend un protagonisme, un pouvoir, un exercice de pouvoir, ou on les casse de les galeries, un exercice de l'économie, du marché, je crois que beaucoup de choses qu'on se trouve maintenant deviennent de là. Je crois que c'est le moment, les années 80, que tout ça il a explosé et qu'il a pris un protagonisme. Et mon intérêt, comme j'ai dit toujours, que mon projet commence par une curiosité de savoir plus et je m'engageais à faire ce projet. Ça, c'est des raisons publiques. La raison personnelle, je crois qu'il a à voir avec le travail que j'étais en ce moment en faisant. Exposition, c'est un travail sur la représentation de l'art. Après, haute culture, il parlait des espaces de l'art en relation aux supermarchés, c'est-à-dire l'architecture. Et en ce moment-là, année 83, c'est le moment que je vais à Long Beach, à Californie, pour une exposition qui s'appelle Comment, que c'est une exposition de narrative art, on disait en ce moment-là, de textes et images, avec des histoires qu'il était entrant cette exposition. Il y avait des travaux de Barbara Kruger, de John Baldessari, de différents gens qui travaillent sur texte et images. Et j'avais un travail là, la télévision. Et le jour après l'inauguration, j'écoutais les docents, les guides, parler de ce travail. Et j'étais très surpris de l'interprétation, de cette interprétation par rapport à pas une trivialité, mais déjà une interprétation très personnelle. Et tout ça, il m'a fait penser que sur les idées d'interprètes, d'intermédiaires, et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de commencer les projets. Et j'ai commencé avec les chapitres numéro 5 de Docents, avec les Docents de Newport Harbor Museum et Long Beach. À partir de là, c'était 10 ans, avec une production très fragile, très faible. Je dois donner crédit à Caterina Borelli qui m'a aidé pendant 10 ans sur ce projet. C'était presque tout son travail de caméra. Et on a profité des voyages pour des projets en Allemagne, en France, en Japon, etc., pour enregistrer à fur et à mesure ce projet qui est 150 interviews. C'est-à-dire, on n'a parti pas avec une production grande. C'était une production qu'il était en train de se faire avec une certaine modestie et fragilité, je dis, parce que c'était presque une équipe de 2 personnes. Quelquefois, c'était moi-même que la caméra venait de l'endroit qui passait, mais c'était un peu l'origine, ça. Les raisons personnelles et publiques, plutôt, de ce projet. Je pourrais parler plutôt de l'installation, mais je crois qu'il se présente ici, il n'a rien... avec beaucoup de détails, je crois que ce n'est pas nécessaire de parler de ça. Non?
Et je voulais demander à Anne d'évoquer son attitude ou idée d'éditeur dans le sens américain par rapport à la question de comment transférer cette œuvre et l'histoire de cette œuvre en format livre. Je voulais aussi mentionner que ce livre paraît dans une collection de publications du MACBA qui s'appelle La collection de la collection et qui présente ou qui étudie les caractéristiques, les valeurs, les arguments qui expliquent l'importance de certaines œuvres ou groupes d'œuvres de la collection MACBA. C'est le deuxième titre et d'autres titres sont prévus pour l'apparition dans le futur. Mais peut-être ce serait bien d'évoquer qu'est-ce que tu avais, quel était ton projet et quel a été le devenir de ton travail.
Oui, donc je dirais le point de départ du livre, ça a été une discussion avec Muntadas autour de la question de la délégation, puisque la mise en espace de l'œuvre, à la fin des années 90, Muntadas la délègue à d'autres personnes. Donc ça a été un sujet de discussion important. Mais ce qui a structuré le livre, je dirais, il y a peut-être deux idées. La première, c'est la question de la longue durée. C'est un projet qui, bon, les entretiens sont réalisés au cours de 10 ans, mais au-delà de ces 10 ans, c'est un projet qui se développe sur de nombreuses années. Donc au début des années 90, c'est les premières mises en espace proposées par Muntadas. À la fin des années 90, c'est la délégation de ces mises en espace à des acteurs un peu périphérique du monde de l'art. Et puis 2010, c'est l'acquisition de l'œuvre par le MACBA et des archives. Et ça arrive, je pense, à un moment où les discours qui composent cette œuvre sont des discours qui ne sont plus tout à fait d'actualité, puisqu'ils représentent les années 80, et donc où ces discours deviennent des discours historiques. Et on s'en rend compte d'une part, parce que plusieurs acteurs ont disparu, mais aussi il y a des débats qui sont formulés d'une façon très différente de ce qu'on pourrait en dire aujourd'hui. Donc ces quatre moments sont peut-être quatre moments de réactivation de l'œuvre, dans des contextes artistiques, culturels, historiques différents. Et le livre est structuré en trois parties. Il y a un entretien donc avec Muntadas, il y a une interprétation que je propose du travail et qui met l'accent évidemment sur ce que cette œuvre pose comme regard sur le monde de l'art, et je le vois un peu comme un dispositif à produire du débat sur l'art dans le monde de l'art. Et puis la troisième partie, c'est vraiment une documentation de l'œuvre et de ses différentes interprétations. Et dans ces trois parties, cette idée de la longue durée, cette idée de quatre moments de réactivation sont très importantes et sont assez structurantes. Peut-être un deuxième point que j'aimerais soulever, c'est autour de la notion de diagramme. Alors, qu'est-ce que j'entends par là ? Il y a eu beaucoup de publications sur le travail de Muntadas, mais il y en a une qui avait retenu particulièrement mon attention, c'était le projet qu'Anne-Marie Duguet avait fait sur Muntadas dans la série Anarchive, qui est une série de publications électroniques sur des œuvres très complexes, des installations complexes, et donc dans lesquelles il y a énormément de documents d'archives des artistes et qui permettent d'une part une plus large compréhension de l'œuvre. Et ce que j'avais trouvé intéressant dans Anarchive, dans l'édition consacrée à Muntadas, c'était cette notion de diagramme. Pour chaque installation, il y avait un diagramme qui était en quelque sorte une représentation très abstraite de l'installation. Je pense qu'Anne-Marie Duguet parlait d'indice d'intelligibilité de l'œuvre, qui était une très belle formulation. Et à partir de ce diagramme, on voyait comment finalement l'œuvre se développait. Et je crois que cette idée, qui me semble, Muntadas, tu pourras rebondir là-dessus, mais cette idée qui me semble assez proche peut-être d'un mode de travail de Muntadas, est assez important dans la partie documentation du livre, parce que chaque occurrence est vraiment documentée de la même façon, c'est-à-dire il y a un diagramme qui est donc assez abstrait, et après ça c'est suivi de différents schémas qui montrent, je dirais, la concrétisation de cette idée en fonction des contextes d'exposition, et c'est suivi par des images de la mise en exposition. Alors je pense que c'est assez important, et cette dernière partie, je lance l'idée, on pourra en rediscuter un petit peu plus tard, mais je pense qu'elle peut-être être considéré comme une sorte de script des œuvres.
C'est ce qui m'intéresse aussi de ce que tu viens de dire, c'est cette idée de délégation de la présentation de l'œuvre que Muntadas semble paraît faire. Et je voudrais précisément demander à Muntadas comment a-t-il géré, ou comment a-t-il proposé de gérer le transfert des autorités, des autorités de l'artiste et de celui de l'interprète, du commissaire, du curator. Comment gères-tu, ou comment proposes-tu des formules de gestion de ce transfert des autorités qui rendent en fait le commissaire ou le curator un vrai interprète?
Bien, les deux premières installations de Between the Frames étaient faites à Bordeaux et à Wexner Museum à Columbus, Ohio. Et à Columbus, c'était la présentation comme un tour de cette forum, cette panopticon reversée, et que tous les chapitres il était présenté comme il se présentait ici au MACBA. Et à Bordeaux, il était éclaté parce qu'à Bordeaux, le musée, l'architecture de CAPC, c'est une architecture très construite. C'est-à-dire, toujours je dis qu'au Wexner, que c'est un bâtiment de Peter, de l'architecte, des constructeurs de Peter Halley, qu'il déconstruit les bâtiments, l'installation se construit. À CAPC, que le bâtiment il est construit, l'installation se déconstruit, et chaque des chapitres il est déplacé par tous les bâtiments. Après ça, je trouvais que la façon d'installer ce travail, pour moi, il perdait d'intérêt. Je pourrais répéter, et je ne suis pas quelqu'un qui aime répéter le travail à l'infinitum. Comme ça, je pensais que c'était reprendre l'idée de la musique, qu'il y a toujours un compositeur, mais il y a aussi des interprètes. Et j'ai demandé, et pas curators, parce que tu te rappelles, à Vite de Vite, toi, tu étais le curator, le directeur curator, mais ce n'était pas toi que tu as fait l'interprétation, c'est un historien de l'art. À Montréal, c'était un sociologue. Et à Berkeley, c'était un philosophe. Et à Luxembourg, un économiste. Plutôt, les différentes parties de ce que constitue ce système de l'art, non? L'histoire de l'art, la philosophie, la sociologie de l'art et finalement l'économie. Cette particularité de choix, c'était de dire comme tous ces acteurs ou interprètes peuvent envisager ou peuvent concevoir la façon de représenter. Et je les donnais tout à fait liberté. Seulement, j'ai demandé, et ici, ce sont les bandes. Ça, c'est la partition musicale. S'il vous plaît, vous interprétez comme vous voulez. Je demande un texte. Pourquoi ce texte? Que c'est la déclaration d'intention. Et ce texte, il était mis à l'entrée de l'endroit d'exposition. Et c'est, tout ce texte, tout ça, c'est raconté en haut, avant d'entrer à l'installation. Et pour moi, je trouvais qu'il pourrait donner une richesse, un autre niveau d'interprétation, comme c'est la interprétation musicale, que quelqu'un peut interpréter comme symphonique, ou il peut interpréter un trio a cappella, ou il pourrait choisir ses instruments, il pourrait choisir la façon comme les montrer. C'est plutôt ça. Je crois que c'était de dire, pour ne pas répéter mon interprétation comme compositeur, délégué à des interprètes qui pourraient les comprendre d'une autre façon. Mm-hmm. C'est plutôt ça. Tu les comprends comme ça, toi, Anne? Ou peut-être tu as des autres opinions.
Alors, un peu différemment, je pense, c'est-à-dire que je ne suis pas sûre qu'on peut dire que les bandes sont une partition. Je pense que c'est du discours sur l'art, un débat sur l'art avec des points de vue très différents qui génère des prises de position. Je le verrais plutôt comme ça. Et ce que je trouve assez intéressant dans les modes de délégation que tient Storr, c'est qu'il n'y a pas, je dirais... Ça échappe à toute forme d'institutionnalisation de la délégation. Et j'explique un petit peu qu'est-ce que je veux dire par là. C'est que dans les années 70, particulièrement avec l'art conceptuel, la délégation est extrêmement importante. Et il y a production de scripts, de partitions, de notations et délégation des interprétations. Et ça se fait dans un esprit très critique contre le fétichisme de l'objet d'art, contre le marché, contre le musée qui fixe les œuvres, particulièrement dans ses fonctions de collection. Et puis, dans les années 90, il y a vraiment, la délégation se généralise, qu'on pense par exemple à l'exposition Do It de Hans-Ulrich Obrist, mais les musées commencent aussi à acquérir avec une assez grande facilité des œuvres qu'ils doivent rematérialiser à chacune des présentations. Et donc, ce qu'ils acquièrent finalement, c'est un script, c'est une notation. Et il y a également actuellement beaucoup de groupes de recherche issus des milieux muséaux qui réfléchissent à ces enjeux-là. Et donc, on voit... alors, c'est fort intéressant, mais en même temps, je pense que ça génère, je dirais, une approche beaucoup moins expérimentale de la délégation. Et on voit des œuvres qui, dans les années 70, étaient chaque chaque interprétation donnait lieu vraiment à beaucoup d'expérimentations. Et lorsqu'elles sont interprétées plus récemment, dans la dernière décennie, il y a une sorte d'uniformisation. Ça devient, je dirais, un processus de travail. Et ce que je trouve intéressant dans Between the Frames, c'est qu'il n'y a pas de régulation des interprétations. Parce que, à mon sens, jusque récemment, il n'y avait pas peut-être de partition. Alors moi, la façon dont je le vois, c'est qu'il me semble que dans des processus de délégation, chacun est amené, tous les acteurs, que ce soit le conservateur, la personne qui est choisie comme interprète, doit en quelque sorte être perturbée dans le rôle traditionnel qu'il joue. Le conservateur qui d'habitude fait la mise en exposition ou encore travaille avec l'artiste qui a une conception de la mise en exposition est privé de ce travail-là. Ce qu'il fait, c'est finalement accompagner l'interprète dans son projet de mise en exposition. Et l'interprète, qui pour la plupart sont issus du milieu universitaire, ce sont des personnes qui connaissent bien le milieu de l'art, qui réfléchissent sur le milieu de l'art, mais qui sont peut-être un petit peu à sa périphérie, en tout cas qui le regardent avec une certaine distance, parce que ce ne sont pas des conservateurs, ce ne sont pas des galeristes, et tout d'un coup, ils doivent produire une mise en exposition. Et ça, je crois que c'est quand même assez déstabilisant pour eux. Donc, moi, je vois un peu ce processus de délégation comme une façon de déstabiliser un petit peu tout le monde, de faire en sorte que tout le monde change légèrement de position. Et je crois que pour quelqu'un qui est universitaire et qui regarde toujours, je dirais, le phénomène de mise en exposition avec cette distance, tout d'un coup, de lui devoir produire une exposition, c'est un changement de position et donc un changement de regard et un changement de discours. Enfin voilà, c'est un peu comme ça que je le vois.
Tout à fait. Moi, je trouve intéressant, en tout cas, dans cette métaphore qui vient de la musique pour à nouveau interpréter ou pour expliquer ces changements de rôle ou ces déstabilisations, que dans la notion de notation, de partition musicale, qui fait ou qui historiquement aussi s'origine au moment où les œuvres d'art commencent à être assujetties à un contrat qui stipule les obligations, les conditions de la rematérialisation, de la représentation. Mais je voudrais peut-être que tu nous parles de Between the Frames par rapport à des œuvres d'autres artistes qui posent des questions similaires ou qui ont posé des questions adjacentes à celles que Between the Frames pose.
Oui. Bon, par exemple, alors, je poursuivrai avec cette idée que, à mon sens, Between the Frames, le processus de délégation tente, je dirais, d'éviter un phénomène de régularisation des interprétations. Par exemple, je pense à une œuvre de Boltanski qui a été montrée ici à Barcelone, à la Fondation Tapies, qui était les inventaires des objets ayant appartenu à un jeune homme de Barcelone. Limites del Museu, j'oublie en quelle année, c'était peut-être fin des années 90, je crois. Et c'est une œuvre qui est intéressante parce que Boltanski amorce cette œuvre au début des années 70. Et la première chose qu'il fait, c'est qu'il produit ce qui peut tenir lieu d'instruction, de notation sous forme de lettres. Et le projet consiste à demander à des musées d'acquérir tous les objets quotidiens qui ont entouré une personne récemment décédée durant sa vie, de les amener au musée et lui vient et fait une disposition de ces objets-là. Et au cours des années 70, il y a eu 7 musées qui ont accepté de se lancer dans cette aventure. Donc une proposition qui, bien sûr, met le musée dans une drôle de situation puisqu'il y a une dimension très, très mortuaire dans ce projet-là et également quelque chose d'assez violent d'acquérir la totalité totalité des biens d'une personne. Et au cours des années 70, cette œuvre, à chacune de ses interprétations, était vraiment réinventée. C'est-à-dire chaque interprète, chaque commissaire a poussé les limites de l'œuvre. Certains ont exposé des objets d'enfants, d'autres des objets de personnes vivantes qui voulaient bien prêter leurs affaires, leurs biens pour la période de l'exposition. À chaque fois, il y avait une réinvention. Dans les années 80, Poltanski a arrêté de réactiver cette œuvre. Il l'a réactivée dans les années 90 et jusque très récemment, il y a eu plusieurs réactivations. Et ce qui se passe dans les années 90, c'est finalement, à chaque fois, c'est un peu le même scénario. C'est-à-dire le musée choisit un jeune stagiaire, un jeune employé qui prête ses affaires. Donc je crois que ça reste une œuvre intéressante, mais il n'y a plus, je dirais, ce jeu sur les limites de ce qu'est l'œuvre et jusqu'où on peut pousser l'interprétation d'une œuvre et en la respectant, je dirais, ce que l'artiste cherche à cerner, à poser comme question. Alors ça, voilà, ici on a un exemple d'une œuvre avec délégation, avec notation, mais qui se régularise. Je pense qu'actuellement, une des œuvres, ce sont les dessins muraux de Sol Lewitt, avec ce projet complètement incroyable du Mass MoCA, qui fait une exposition qui va durer 25 ans et qui présente tous les dessins muraux de Sol Lewitt réalisés donc dans ce lieu aménagé exprès pour cette exposition-là. Et là aussi, quand on lit les instructions des dessins muraux de Lewitt, ceux du tout début, les instructions sont incroyablement vagues, volontairement vagues, c'est-à-dire il y a vraiment une marge de jeu très très grande, alors que plus on avance dans le temps, plus ça devient finalement un travail extrêmement d'exécution plutôt que d'interprétation. Alors voilà, peut-être un dernier point que j'aimerais soulever, c'est que aussi dans ces œuvres à occurrences multiples, très souvent, le musée, lorsqu'il présente cette œuvre, ne donne aucune information sur les occurrences antérieures. C'est-à-dire que le spectateur se retrouve face à une œuvre qui pourrait finalement être interprétée comme une œuvre unique, un objet unique. Et c'est très très rare que dans l'espace d'exposition, on donne à connaître cette histoire de l'œuvre. Et ça, c'est quelque chose, je trouve, vraiment intéressant dans le choix de Muntadas, de cette introduction documentaire à l'installation qui vraiment contextualise l'œuvre et montre les différentes formes qu'elle a prises au cours de son histoire.
Et tu viens de dire une chose qui m'intéresse particulièrement pour reposer la question à Muntadas, à l'artiste. Tu as parlé des limites de l'œuvre. Je pense qu'une des fonctions aussi de notre travail, c'est d'essayer de clarifier un peu les différents concepts qu'on utilise depuis un certain temps, de plus en plus. On parle de plus en plus des rapports entre œuvres d'art dans le sens traditionnel. On parle de plus en plus du rôle des archives. On parle de plus en plus de documents. Et précisément, parfois, on a tendance à échanger ces notions d'une manière assez souple. Comment tu vois ce problème, Muntadas, par rapport à ta propre pratique?
Bien, avant de répondre à ça, je voudrais faire une remarque à ce qu'un Pénichou a dit par rapport à des interprétations. Je suis d'accord qu'il y a eu les années 70 des interprétations, par exemple, sur le 8, il faisait des gens qui suivaient ces régulations assez strictes de Sol Lewitt ou de Calandré. Mais par exemple, l'exemple de Boltanski, la différence que je vois, que c'est une différence que, en mon cas, c'est une façon d'interpréter la présentation du travail. En le cas de Boltanski, c'est une façon d'interpréter la production. C'est-à-dire, Boltanski demande au musée que c'est le musée qu'il doit chercher les matériaux pour présenter le travail. C'est-à-dire, délègue la production. Je crois qu'il y a une différence par rapport à ça, parce que ce n'est pas la même chose de dire... je dois aussi remarquer que j'ai parlé des partitions pour faire une analogie avec la musique, parce que dans les arts visuels, il n'y a pas une tradition de dire ça c'est l'air, vous l'interprétez. C'est-à-dire, il y a des cas, etc. Il arrive à le maximum avec Ulrich quand il fait « do it yourself » et te dit à les gens que vous faites même l'œuvre. Mais je voudrais dire que cette partition, que les bandes, si je les parle de partition, c'est pour suivre la métaphore de le compositeur, interprète, etc. Bien. L'histoire de l'archive et l'histoire de qu'on pourrait dire l'œuvre. J'ai un peu de réticence de parler d'œuvre, toujours je parle des projets. Mais sur cette chaîne que nous sommes maintenant en train de parler, je crois qu'il y a une chaîne de recherche, que c'est l'archive, qu'on se trouve à l'ECEDOC. C'est tous les 150 interviews faites comme matériel brut, raw, sans éditer, qu'il a l'accès, que moi, je dis, s'il y a quelqu'un qui voudrait faire avec 150 interviews un autre travail, moi, je l'ai fait, pourquoi pas, c'est accessible. C'est matériel de 150 personnes, une heure, des gens qui ont déjà... Quelqu'un est disparu, Simon, Pierre Restani, beaucoup de gens qui ont beaucoup de choses à dire, et que moi j'ai utilisé des fragments. Ok, ça c'est l'archive, la recherche. C'est au CEDOC, un endroit de centre de documentation. Au musée, il y a le travail activé. C'est l'activation de cette recherche dans une situation plutôt de production. C'est l'installation même. Et en ce cas ici, il y a un troisième, que c'est les livres, que c'est la distribution de l'information, c'est un certain autocriticisme ou criticisme de part, mettre en question tout ça. C'est-à-dire, je dirais que c'est recherche dans les centres de documentation, l'archive, l'œuvre dans le musée et les livres comme une extension à les trois procès. Tout ça, je trouve que, pour moi, ce sont des choses différentes. J'ai fait une grande différence entre l'archive et le travail. En ce moment qu'il y a une certaine confusion, que l'archive, c'est l'œuvre, moi, je prends une distance, je crois que l'archive, c'est le recul, les processus du travail, mais qu'il arrive un moment que quelqu'un doit faire l'editing. Et l'auteur, il prend la responsabilité et les intentions doivent être réfléchies par cet editing. Je crois que l'œuvre, toujours, c'est le moment de montage, d'editing. C'est pour ça qu'en le cinéma, il y a les Final Cut. Quelqu'un il peut monter un travail, mais qui a les Final Cut? C'est le producteur. Le producteur, quelquefois, on négocie avec l'auteur qui décide. Donc ça, en ce cas, je crois que l'auteur, il a les Final Cut. Et après, les livres, c'est raconter tout ça, mais aussi essayer de d'ouvrir une certaine critique ou discussion sur de la façon de travailler. Je le vois plutôt comme ça. Mm-hmm. Non? La différence surtout d'archives et œuvres. C'est pour ça qu'au Magma, il était parfait, parce que ce sont des unités différentes, ces bâtiments différents. Tu dois passer. Si au Magma, le centre de documentation, il était au quatrième étage, pour moi, ça ne serait pas tellement évident. Sortir de là et aller à un autre bâtiment, je crois qu'il fait les choses plus claires.
Mmh. Et toi, Anne, comment tu vois précisément cette tension de concepts qu'on utilise de plus en plus et de plus en plus, d'une manière de plus en plus souple?
Oui, alors bon, je pense que ce qui est présenté au centre de documentation, donc les interviews avant montage intégraux, Oui, je crois que c'est tout à fait juste de dire qu'il relève de l'espace de l'archive. Je vais y revenir. Par contre, les documents qui sont intégrés à l'espace de l'œuvre, c'est-à-dire les diagrammes, les différents schémas, les photographies des différentes interprétations, je crois que là, le statut est peut-être plus ambigu. Parce que, c'est un peu spatialement, déjà, il me semble que l'installation est précédée d'une antichambre, en quelque sorte, où on a cette documentation. Et cette documentation, comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense qu'elle est essentielle parce qu'elle contextualise l'œuvre, elle en fournit dans l'espace même de l'exposition son historique. Mais je crois que, est-ce que cette documentation fait partie de l'œuvre ? Je pense que son statut est ambigu, et je pense que c'est bien qu'il soit ambigu. Je ne vois pas tellement de problème à ça, c'est-à-dire que je pense que dans plusieurs œuvres, d'ailleurs de Muntadas et d'autres artistes, le document rentre dans l'espace de l'œuvre parce qu'il permet de fournir un certain nombre d'informations qui sont tout à fait intéressantes. Et d'ailleurs, je trouve assez intéressant la façon dont c'est présenté, puisque c'est dans l'espace de l'installation, mais en même temps, les dispositifs de présentation sont des dispositifs qui sont quand même très codés, très connotés, et qui sont plutôt ceux qu'on utilise pour présenter traditionnellement de la documentation dans le musée. Je pense que c'est la table. Avec les documents sous vitrine. Alors voilà, là je crois qu'il y a un statut ambigu, c'est le document, c'est l'œuvre, et je dirais c'est aussi le script, la notation. Tout à l'heure, je disais, je ne sais pas si je peux, si j'arrive à considérer que les bandes relèvent de la notation. Par contre, il me semble que le fait d'amener toute cette documentation dans l'espace de l'œuvre, de la publier aussi dans le livre et de lui donner cette organisation, ramène le document vers quelque chose qui relève du script, c'est-à-dire qu'il témoigne de l'histoire de l'œuvre, mais en même temps, il permet de futures réactivations de l'œuvre. Puisque, Anthony, tu disais que l'œuvre a été acquise, ça n'empêche pas qu'il pourrait y avoir de nouvelles interprétations faites par d'autres personnes.
Oui. Ici, on avait la possibilité de montrer un peu l'histoire du travail. C'est pour ça que et je suis d'accord qu'il peut être présenté sans toutes les notations et la description. C'est anti-salle. C'était parce que c'est acheté pour Magba. C'était la possibilité de recueillir, de prendre tout ça et faire l'histoire et faire les livres. C'est un peu un recul de tout ça. Mais la possibilité d'être montré dans un autre endroit, ce n'est pas nécessaire qu'il doit voyager avec tout ça. C'est seulement il est autonome. Mm-hmm. L'œuvre, c'est autonome. Je crois qu'il se rend compte assez bien par rapport à ce qui existe dans la salle, des forums. Par rapport à des nouvelles interprétations, pourquoi pas? Mais c'est une chose que ça doit apparaître, la situation. Maintenant, à Long Beach, l'endroit que j'avais commencé le projet, et à l'année 82-83, et ils sont présentés à une exposition que c'est tous les musées de Los Angeles. Ils ont fait une exposition qui s'appelle Exchange, qui reprenait chaque musée, les années 80, 90, etc. À Long Beach, ils ont repris toute la production qu'ils avaient fait sur le musée et m'a demandé de faire ce travail. Et c'est il y a un rôle que c'était pas pensé sur moi, que c'est l'idée de l'investigateur, des rechercheurs autrichien Doris Bremer, qu'il a fait une interprétation. On a parlé et c'était une situation comme ça. C'est ouvert pour possible interprétation.
Je voulais aussi mentionner l'existence d'un autre livre. C'est Celui-ci, qui accompagne, vous le trouvez dans les salles d'exposition, vous le trouvez aussi en librairie, et il montre il offre les traductions, les transcriptions des entretiens qu'on voit dans l'œuvre, dans la langue de l'endroit. Parce que ce que d'entre vous avez vu, j'espère, tous, l'œuvre, vous savez que les acteurs, les gens qui sont interviewés parlent chacun sa langue, l'anglais, le français, l'italien, le catalan, l'espagnol, et que les bandes, les entretiens ne sont pas sous-titrés. En fait, la première sensation qu'on a lorsqu'on approche de la pièce, c'est la sensation de babélique, d'entendre plusieurs langues, plusieurs voix, dans plusieurs langues en même temps. Et lorsqu'on rentre dans l'un ou l'autre des chapitres dans lesquels la pièce est divisée, on peut se concentrer sur l'un ou l'autre. Pourquoi cette décision de laisser la langue de chacun? Et aussi, comment as-tu choisi les gens que tu as interviewés? Nous avons des membres très connus des communautés artistiques, des membres pas du tout connus, mais qui, pour des raisons, une raison ou une autre, étaient importants pour toi au moment où tu as décidé de faire les entretiens. Comment as-tu travaillé ces deux données?
Bien, pour les langues, pour moi, c'est important maintenir la langue. Je crois que la langue, il y a quelque chose de, je ne dois pas remarquer ça, d'identité par rapport à la personne qui parle, mais aussi l'accent. Je trouvais que l'accent, c'est une chose que j'aimerais quelquefois faire un travail sur l'idée d'accent, parce que j'ai dit que l'accent à Internet disparaît. Quand on reçoit les gens un message à Internet, on ne sait pas. Il disparaît, l'accent. Je crois que l'accent, c'est une chose importante. Comme ça, il fait part de ce côté phonétique. Et aussi, la façon d'écouter l'italien après l'anglais. Tu écoutes à Lucio Amelio après d'écouter à Benjamin Buclo. Il y a la rhétorique du langage, tout ça. Et tout ça, finalement, il a devenu que je me suis intéressé pour en translation, non, pour le travail que j'ai commencé quelques années après que j'ai fini Between the Frames. Comme ça, je crois qu'un travail t'amène à un autre. Pour raconter aussi que c'est une chose que tu ne m'as pas demandé, mais que j'ajoute, pourquoi les noms de la personne ne sont pas mis, dire qui parle, tu as sous-titré. Je voulais maintenir, un peu déconstruire l'idée de ce pouvoir de la personnalité par rapport à la mythification du personnage. Non, je crois que c'est intéressant d'écouter quelqu'un qui parle de quelque chose, mais nécessairement, tu ne dois pas l'identifier de who is who. Tu as les noms sur une liste et après tu as les noms sur les livres, mais avoir l'expérience de l'écouter en les langues originales et sans savoir qui est qui, pour ne pas mythifier que déjà le monde de l'art est assez mythifié et prend une distance. Ça, je trouve que c'était des décisions que j'ai bien de faire des autres travails, que je maintiens cette idée que j'interviewe les gens, mais nécessairement je ne dois pas dire cette personne est là. Je les donne les crédits à la personne, je l'identifie, mais ce n'est pas nécessairement que des... Parce que quelquefois, médiatise vraiment la lecture du travail. Par rapport à... Ça, ce sont des décisions. Tu m'as demandé quelque chose en plus que...
Oui, comment as-tu choisi les gens qui sont interviewés?
OK. Quelques gens, je connaissais quelques... Quelques gens, je ne connaissais pas. J'ai envoyé une lettre assez distante. présenté comme artiste. Il y avait des gens qui me connaissaient comme artiste, il y avait des gens qui non, ne savaient pas si c'était peut-être pour être un journaliste ou quelqu'un qui fait une étude de recherche. Je ne voulais pas, je dirais peut-être un 60% connaissait, 40% non. Et 40%, il y avait des gens que je connaissais et les autres non. Comme ça, c'était plutôt de dire, je fais une recherche, je fais un travail. En général, les gens, ils sont répondus d'une façon assez effective. Je dirais que les gens qu'on n'a pu pas interviewer, c'était par un problème de date. Oui, problème. Mais en général, je me rappelle d'une façon assez, un temps pour cent assez positif. Je crois que l'art, il y a un network, et ce network, tu le connais. En ce moment, peut-être on le connaît moins parce qu'il y a plus en plus. Et en ce moment-là, il était plus réduit. On savait qui écrivait, qui étaient les gens au musée, etc. Maintenant, c'est presque impossible parce qu'il a grandi tellement ce système que je crois que ça c'est. Si je devais faire ce projet une autre fois, je dis toujours que ce serait le moment de mettre des autres rôles. Les biennales, les auctions, les
ventes aux enchères.
Les enchères, et peut-être les foires. Que ce sont des choses que les années 80, après les 90, ils sont apparus. Il y a eu un moment que j'ai interviewé les gardes du musée, les gardiens. Ça, c'était quand j'étais un certain moment après. Et peut-être c'est une autre chose que je devais le faire, je l'incorporerai aussi.
Et en fait, c'est ce que je voulais te demander, mais je formule la question à l'envers. C'est-à-dire, est-ce qu'il y aurait quelque chose que tu ne ferais pas maintenant par rapport à ce portrait du monde de l'art, du système de l'art, ou bien tu penses que ce qui me paraît très important, c'est que l'analyse ou l'idée de représenter les rapports des différents acteurs ou différents secteurs professionnels dans le qui compose le milieu de l'art reste très valable aujourd'hui. On continue à comprendre des choses, même s'il y a beaucoup de gens qui sont interviewés qui ne sont plus actifs, certains sont déjà morts, mais les discours, les informations, les propos, les idées restent toujours très utiles.
Bien, plus que faire en enfer, ce que je dis, c'est l'intérêt que tu as à un certain moment de ton travail pour le système de l'art. Moi, en ce moment, j'ai moins intérêt. Je crois que c'est toujours. Le travail, c'est comme un zoom in, zoom out. Non? À un certain moment, voir, et je disais, haute culture, exposition. Between the Frames, c'était un regard sur la production et le système de l'art. Ça, mon travail, ce n'est pas toujours ça. En ce moment, j'ai perdu intérêt. Peut-être en quelque autre période, je le ferai. Comme ça, si tu me demandes qu'est-ce que tu ne feras pas, pour le moment, ça ne m'intéresse pas d'analyser ça. Je crois que je suis consciente et je suis intéressé à des autres choses. Et les zoom-in est dans d'autres situations. Sur le système, j'ai un zoom-out maintenant. Peut-être que je pourrais m'approximer plus tard. Non? Je crois qu'on doit. C'est un exercice de regard, mais aussi un exercice de ce qui te préoccupe ou t'intéresse, etc.
On parle depuis presque une heure et peut-être ce serait aussi bien d'ouvrir la conversation au public. Mais je voulais demander aussi à Anne si elle peut ajouter en ce moment une conclusion ou un point sur son expérience maintenant par rapport au travail et surtout au livre qui est là. La raison pour laquelle on est ici.
Ben, moi, j'aimerais rajouter peut-être quelque chose par rapport, puisque aujourd'hui, j'ai pu aller au centre de documentation et vraiment m'asseoir et écouter des entretiens. J'avais pu en écouter juste deux ou trois en cours de travail. Et enfin, j'ai trouvé extrêmement intéressant la nature de ces entretiens. Et ça m'a amené, je dirais, à réfléchir à la façon, parce que tout à l'heure, on a parlé d'archives, documents, quelle est la différence, et j'ai dit bon, ici on est dans l'espace de l'archive, mais ce qui me semblerait important peut-être de dire, c'est que quand on je dirais amène des archives d'un projet comme ça dans une institution, toute la question de leur organisation se pose, c'est-à-dire ces archives ont une organisation propre au travail de l'artiste chez lui, et là au musée, ben on construit l'archive, on l'organise. Et ce que je trouve assez intéressant dans le choix qui a été fait par le centre de documentation, c'est qu'il y a peut-être un double registre quand on regarde le catalogue informatisé. Ce sont bien les archives du projet Between the Frames, mais c'est aussi, on y a accès, si je fais une recherche sur la revue Artitude, je vais tomber sur l'entretien avec François Pluchart, par exemple. C'est-à-dire, ce que je trouve très intéressant, c'est de voir comment tout ce matériel qui a une valeur historique, c'est peut-être beaucoup dire, mais je dirais qui est plus tout à fait un portrait du monde de l'art tel qu'il est aujourd'hui, mais de voir qu'il devient vraiment des documents et des discours que l'on rend en quelque sorte au monde de la bibliothèque, au monde de la recherche, et que quelqu'un qui ne connaît pas Between the Frames va accéder aussi à ces discours-là dans le cadre d'une recherche tout autre. Et ça, cette espèce de double logique de l'organisation de cette archive-là, je l'ai trouvé vraiment très intéressante. Alors, écoutez, le livre, je pense qu'il est peut-être un élément de plus dans cette archive. Je crois, enfin j'espère, évidemment c'est difficile pour moi d'avoir ce recul-là, mais je pense qu'il rend compte à la fois de ce projet, des logiques et des méthodes qui sous-tendent le travail de Between the Frames. Donc voilà. Et il y a une chose que je n'ai pas dite au début, mais que j'aimerais dire. J'aimerais remercier quand même, prendre quelques minutes pour remercier tout le personnel avec qui j'ai travaillé, du MACBA, une équipe absolument extraordinaire. Et puis également Muntadas, qui, pour sa confiance, et avec qui nous avons pu avoir des échanges très, très riches. Voilà.
Il y a John Thackara qui a été l'inventeur d'un grand, une grande manifestation par rapport au design dans les années 90, disait que lui, les bibliothèques ne l'intéressent pas, ce qui l'intéresse c'est les bibliothécaires. Et Mela Davila, qui est responsable du centre de documentation, dit souvent que le problème de la digitalisation n'est pas la digitalisation, c'est la classification qu'on fait des matériaux digitalisés. Et dans ce sens-là, j'insiste sur l'importance aussi des instruments par lesquels on arrive à avoir accès à la connaissance. Les livres sont les formats traditionnels de distribution de la connaissance, mais je pense que ce projet nous amène aussi à considérer, c'est une nouvelle typologie de livres puisqu'il traite de nouvelles typologies d'éléments qui composent aussi le patrimoine.